Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débattre de la médecine et des innovations scientifiques. Donc on est un groupe qui vient de l'UV SI1 et on va parler dans le cadre du débat scientifique sur la médecine et les innovations. Donc aujourd'hui avec nous, déjà on vous souhaite un bon Noël et des bonnes fêtes qui sont à venir. Et puis avec nous, on a Ahmed.
Bonjour.
On a ensuite Étienne.
Salut.
On a Kétia.
Bonjour à tous.
On a Pauline.
Bonjour.
On a Manon.
Salut.
Puis Edgar.
Bonjour tout le monde.
Donc dans une première partie, je vais vous parler de la robotique chirurgicale, parce qu'en ce moment, c'est un peu une révolution. Ça fait quelques années que c'est quand même en marche. Et on voit par exemple que le marché mondial des robots chirurgicaux, il est à 3,9 milliards de dollars en 2018 et il est passé à 2 milliards de dollars en 2020, on estime en 2023. Et on les voit de plus en plus présents avec par exemple le robot Da Vinci. On en compte 80 en France, donc c'est quand même énorme, et 3000 dans le monde. Ça sert au pontage coronarien. Mais en fait, on voit qu'il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours, même si c'est précis, exact, et bon, il y a moins de problèmes, par exemple, de fatigue ou parce que impact émotionnel de la personne ou des humains. Je pense que c'est toujours problématique parce que s'il y a un problème, on n'est pas en la capacité de s'arrêter et ça peut être mal programmé aussi. Et c'est pour ça qu'on a déjà vu un accident. Quelqu'un qui s'appelait Stéphane Petit, Royaume-Uni, à 69 ans, qui est mort à cause du système qui a été défaillant. Et du coup, moi, j'aimerais bien réagir avec vous par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous préférez la précision de la machine, entre guillemets, ou que mettre votre santé, entre guillemets, entre les mains plutôt des humains?
Est-ce que, juste avant qu'on interagisse sur la question, tu voudrais bien préciser exactement quelle intervention fait le robot par rapport dans l'opération?
Et ben en fait, il s'occupe de la réparation de tout ce qui est les artères aortes. Et du coup... c'est quand même, une partie du corps qui est quand même très sensible, et c'est un endroit, faut pas se tromper, quoi. Si tu fais un... Là, ce qui s'est passé, en fait, c'est que, du coup, vu que le robot, il a fait une mauvaise manip, en gros, ça a ouvert un tuyau, ça saignait de partout, et avec la caméra, les chirurgiens, en fait, ils n'arrivaient pas à voir et à intervenir, et puis le personnel n'était pas forcément non plus informé sur le sujet, du coup c'était compliqué.
En soi, ça peut être une bonne chose d'avoir des robots parce que c'est quand même une technologie très très précise, mais dans le domaine de l'intervention médicale, c'est quand même très très important d'avoir l'intervention humaine, parce que il y a certaines décisions où une intelligence artificielle ou un robot, il va pas trop savoir comment agir. Et même s'il y a un être humain derrière, le fait de ne pas être directement sur le terrain, ça limite quand même le champ d'action de l'être humain, et c'est compliqué de prendre des décisions et d'être... je pense que ça, c'est un peu dangereux pour moi.
Donc toi, tu préférais l'humain avant tout?
Dans le domaine médical, en tout cas, oui.
Ok.
Je tiens quand même à dire que le risque zéro n'existe pas durant une opération chirurgicale. Donc, dans des deux côtés, il est possible d'avoir des erreurs ou même des morts durant la chirurgie. Du coup, dire que diaboliser entre guillemets le robot, disant que c'est sa faute, il faudrait arrêter. Je pense pas. Il faudrait plutôt améliorer et du coup regarder les risques qui sont aux alentours. Par exemple, si on compare à un médecin, il peut subir de la fatigue ou même du stress pendant l'opération, et lui aussi peut commettre des fautes comme le robot en question. Du coup, il faudrait peut-être améliorer cette technique. Je pense que sur le long terme, on pourrait améliorer au point d'avoir un risque zéro qui sera plus précis, je pense, qu'avec un humain.
Ouais, comme dit Ketsia, moi je suis d'accord sur le fait, bah ok, il y a eu un accident avec les robots, c'est dramatique, mais je pense que des accidents qu'il y a déjà eu avec des vrais humains, il y en a eu aussi. Donc en soi, on fait quoi? Vu qu'il y a un accident avec les humains, on arrête toutes les interventions chirurgicales difficiles puisqu'on peut tuer la personne. Enfin, moi je dis, il ne faut pas mettre un frein à l'innovation, et ok, il y a eu des accidents, et il y en aura toujours. Dans chaque progrès scientifique, il y a eu des accidents... Il y a eu des morts et c'est dramatique, je ne peux pas dire le contraire. Mais bon, malheureusement, bah, c'est entre guillemets ces morts, enfin là je fais vraiment l'avocat du diable, mais c'est ces morts en fait qui nous fait un peu avancer, qui on voit là où sont les problèmes. Et grâce à ça, eh ben, on peut encore améliorer notre prototype, notre technologie pour que ça soit encore mieux.
Bon, ben, je suis contente d'avoir vos avis là-dessus. Je suis d'accord avec vous, surtout que l'opération là dont on parlait, elle était de 6 heures. Donc, c'est énorme pour un humain. Enfin, je veux dire, même il y a la fatigue, comme tu disais. Et voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'autre rubrique qui concerne les OGM. Donc, je vais laisser la parole à Manon et Ahmed.
Salut. Alors, nous, on voulait vous parler aujourd'hui des OGM. Les OGM, on en parle beaucoup. On sait ce que c'est, organismes génétiquement modifiés. Donc, c'est des organismes dont la génétique elle a été modifiée par l'intervention humaine. Et donc, on a le public, en tout cas, on a une très mauvaise image du fait de leur utilisation en alimentaire et dans les champs et tout. Et on a une mauvaise image des OGM, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et pourquoi elles font débat ? De un, donc à cause de leur utilisation en alimentaire, mais aussi à cause des lobbies des OGM qui sont très puissants et qui sont proches du pouvoir et qui essayent de faire adopter des lois en faveur des OGM. Mais les OGM, c'est pas seulement utilisé en alimentaire ou pour faire plus de culture ou quoi, mais c'est aussi utilisé dans le médical.
Et oui, effectivement, donc on utilise les OGM dans le médical et c'est assez utile. Par exemple, l'insuline est utilisée pour soigner le diabète et est une OGM. On a aussi des hormones de croissance humaine qui sont utilisées pour soigner des formes de nanisme qui sont aussi des OGM. Et on peut en trouver aussi dans les vaccins, donc par exemple le vaccin contre l'hépatite B. Donc c'est fabriqué à partir de levures et de cellules d'ovaires de hamsters. Donc tout ça, c'est quand même très pratique de pouvoir utiliser ces OGM pour soigner l'humain. Et donc c'est aussi souvent moins coûteux, enfin peut-être pas souvent, mais dans certains cas c'est moins coûteux. Donc on produit des plantes transgéniques comestibles et donc elles permettent aussi de soigner un virus comme le vaccin. Et donc là, on essaye aussi de trouver des nouveaux procédés pour fabriquer des anticorps contre le cancer, par exemple, grâce à ces OGM. Donc, c'est quand même assez important et ça pourrait vraiment faire avancer la science et nous permettre de lutter mieux contre toutes les maladies qu'on connaît. Et par exemple, il y a aussi un autre exemple, ça pourrait aussi supprimer les gènes de résistance contre les antibiotiques. Et donc, c'est un progrès assez important qu'on ne peut pas non plus négliger et oublier quand on parle des OGM. C'est assez important.
En effet, et on peut modifier un élément, mais pour notre bien, c'est pas forcément mauvais en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Par exemple, en nutrition, les OGM ne sont pas que nocifs. On a la possibilité de modifier la valeur nutritive d'un aliment pour résoudre un problème de nutrition, par exemple. Du riz enrichi en vitamine A ou des plantes avec plus de fer. Ou des aliments moins allergènes pour certaines personnes. Et souvent, ça peut vraiment avoir des impacts énormes et avoir un effet autant qu'un médicament ou quoi, parce que l'aliment, il sera plus bon pour notre corps, modifié, qu'un aliment bio, par exemple. Et des recherches, elles sont aussi faites pour des AGM. Des AGM, c'est quoi ? C'est des animaux génétiquement modifiés. En gros, on va modifier l'ADN d'un animal, par exemple. Les plus grandes recherches qui ont été faites sur ce sujet, ça a été par exemple sur des porcs pour réduire de 70% leur déjection. Sachant que les déjections des porcs, c'est ultra polluant. Et c'est mauvais pour la planète. Et donc, grâce à ces AGM, donc ces animaux génétiquement modifiés, bah, on a réduit de 70% leur déjection. On a aussi réussi à modifier l'ADN d'une vache pour rendre la viande de la vache plus fine et donc réduire les problèmes de cholestérol et les problèmes cardiovasculaires. Et il y a même des chercheurs du Brésil qui ont croisé l'ADN d'une vache avec des gènes humains afin que la vache donne du lait maternel. Et à vrai dire, les résultats, ils étaient plutôt concluants. Et donc, beaucoup de labos pharmaceutiques attendent juste le go des autorités pour commercialiser tout ça. Vous en pensez quoi des AGM, vous ?
Bah moi, en fait, c'est assez intéressant que tu parles de ça, parce que moi, je me suis un peu, intéressé sur ce sujet. En fait, je me suis dit, par exemple, les animaux qui sont nés pour l'élevage et pour l'abattage, c'est-à-dire qu'ils sont nés, dès qu'ils sont nés, on dit OK, eux, ils vont après mourir et servir comme viande à manger et tout. Je vous dis, est-ce que vous penserez que ce serait bien ou pas qu'on modifie leurs gènes ? Par exemple, j'ai vu ça, après, je pense que c'est des fake news, mais si c'était vrai, je trouvais ça assez intéressant de débattre sur ça. Si on prendrait un poulet, par exemple, et qu'on ferait dessus des modifications génétiques pour que ses cuisses soient encore plus grandes, certes, du coup, il y aura plus de viande quand on le tuera, donc ça, c'est un côté bien. Mais j'ai vu aussi que si on fait ça, en fait, le problème, c'est que le poulet, bah, il va souffrir toute sa vie, parce que bah, des cuisses trop grandes, il aura du mal à marcher, il aura du mal à supporter son propre poids. Et vous en pensez quoi ? Parce qu'en soi, c'est vrai que bon, c'est triste pour ce poulet, mais vu qu'il est, dès qu'il est né, on a dit bah, « toi, tu vas servir comme nourriture plus tard », bah, en soi, est-ce qu'on peut vraiment déplorer ça ? Puisque bah, dans tous les cas, même s'il n'aurait pas fait ça, et bah, ce poulet va quand même mourir et il y aura toujours aussi peu de viande, quoi.
Et pour moi, outre la question de vie ou de mort de l'animal, il y a quand même une question d'éthique derrière tout ça. Est-ce qu'on est vraiment légitime de décider de modifier un autre être humain ? Enfin, si on a envie de se modifier nous-mêmes, j'ai envie de dire c'est notre corps, on fait un peu ce qu'on veut, mais qu'est-ce qui nous autoriserait à toucher aux autres espèces ? On ne sait pas les impacts que ça pourrait avoir sur le long terme ou des choses comme ça.
Mais rien qu'aussi le fait de faire autant de recherches sur les animaux, il y a toujours une question de... Je pense qu'il faut toujours réfléchir à parfois un peu ralentir, entre guillemets, les innovations, la recherche, etc. Juste pour se poser certaines questions sur la cause animale, très clairement, parce que oui, c'est bien de vouloir toujours plus et de vouloir avoir les meilleurs aliments possibles, la meilleure alimentation, toujours penser au profit, limiter les dégâts sur le réchauffement climatique. Mais avant tout ça, il faut aussi penser aux animaux, à l'environnement qui nous entoure, etc. Et les questions d'éthique, comme tu l'as dit, Pauline.
Après, moi, je pense que d'un côté, si on arrive à, d'un côté, modifier génétiquement l'animal et qu'il ne souffre pas, ben, on a tout gagné. Mais en effet, on est toujours pas arrivé à ce point-là. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'animaux en laboratoire ou quoi qu'on utilise et qui souffrent vraiment, qu'on leur fait des injections tous les jours, on les teste et c'est vraiment pas facile. Mais si on arrive vraiment à... C'est-à-dire modifier génétiquement l'animal pour qu'il pollue moins comme les porcs ou que sa viande soit moins nocive pour notre corps comme les vaches et que l'animal ne souffre pas, qu'il ait un cycle de vie normal comme les autres animaux, bah, à ce moment-là, on aura vraiment réussi le challenge.
Mais Etienne, tu parlais des poulets qu'on choisissait. En fonction de leur cuisse, on modifiait leur cuisse pour avoir une viande plus tendre, je ne me trompe pas. Mais en fait, j'estime qu'en fait, on le faisait déjà par la sélection naturelle. Certes, il n'y avait pas de modification génétique directe en cours de laboratoire, mais on choisissait de base les poulets les plus gras pour se reproduire et du coup donner à manger à la population. Du coup, petit à petit, la sélection naturelle a déjà effectué ce processus et cette sélection ne nous a pas dérangé depuis que ça a commencé à exister, elle ne nous a jamais dérangé. Donc certes, là, il y aura une modification génétique directe, mais elle se faisait déjà indirectement et ça ne gênait personne.
C'était le choix de choisir certaines espèce, on va dire, de poulet, mais c'était pas... Là, c'est un autre level. Là, c'est injecter et modifier carrément l'ADN des êtres vivants. Donc moi, je trouve que quand même, même si certes, c'est la même idée de sélectionner ce qui est le plus profitable pour nous, là, moi, je trouve que c'est quand même un niveau un peu plus poussé, on va dire, quand même.
Donc, toi, par exemple, Elora, donc, comment il y aurait, du coup, tu pourrais manger un bon poulet qui a été modifié génétiquement pour qu'il soit encore super. C'est dit, c'est sûr, hein, il n'y a pas de problème pour ta santé en le mangeant et tout. Mais toi, vu qu'il a été modifié génétiquement et que d'un côté, tu ne trouves pas ça très éthique, eh ben, tu ne le mangerais pas, ce poulet?
Je ne sais pas si je ne le mangerais pas, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, je pense qu'il faut toujours réfléchir aux conditions de vie de l'animal, tu vois, parce que certes il est voué à être tué et à être mangé, mais bon, si c'est pour qu'il passe sa vie je sais pas, moi pour moi j'aurais un peu du mal à voir ce qu'il y a derrière.
Ouais, moi aussi je suis assez mitigée sur le sujet, et je pense que si on décide de modifier de base, juste par exemple, pour reprendre l'exemple des poulets, les poulets pour les consommer, pour qu'ils aient des cuisses plus développées, on aura peut-être modifié 1000, 2000 espèces, j'en sais rien, mais ces espèces, elles vont se reproduire, et on n'aura pas voulu modifier toutes les espèces de poulets, mais peut-être que au fil des générations, ces modifications génétiques, elles vont se transmettre à leurs descendants, et au final, on va complètement perdre le contrôle sur ces modifications génétiques, et on n'aura plus rien de naturel et toutes les espèces vont finir modifiées.
Ouais, c'est ça, j'ai l'impression que c'est essayer de trop contrôler certaines choses et après, il y a forcément des conséquences qu'on ne pourra pas forcément très... Enfin, qui ne seront pas gérables, tout simplement.
Après, tu parles de naturel, manger des trucs naturels, mais tu sais, dans l'agro-industrie, il y a tellement de choses qui sont ajoutées dans tout ce qui est, par exemple, gâteaux, bonbons, tout ça, que si on devrait donner la liste de tout ce qui a été modifié... D'ici là, quand on voit le nombre d'additifs alimentaires, de conservateurs, tout ça, bah t'as déjà du coup ces modifications qui sont faites. Alors pourquoi du coup, la modification génétique serait mal, tu vois, juste parce que on parle de génétique, donc c'est vrai que la génétique ça fait un peu peur puisque c'est la modification carrément d'une espèce, puis ça fait un peu mutation bizarre. Mais bon, voilà, c'est déjà été fait dans plusieurs produits, tous ces mélanges, ces trucs bizarres, ces additifs, tout ça. Alors pourquoi ça serait si dérangeant que ça en fait?
En fait, pour moi, je pense pas que ce soit une question de bien ou de mal, comme tu le dis. Je pense que c'est plutôt une question de temps, où pour l'instant, comme c'est des sujets assez nouveaux, il y a quand même beaucoup d'incertitudes. Et c'est quand même important de développer ça longuement en laboratoire et de pas précipiter les choses. Parce que oui, forcément, on y arrivera. On est de plus en plus nombreux sur Terre. On a besoin de nourriture plus rapidement, un plus grand rendement, etc. Mais il faut pas précipiter les choses pour autant et être sûr de ce qu'on fait.
Oui, c'est ça, moi je diabolisais pas la chose, je disais juste que je pense que ça a besoin parfois de ralentir pour éviter genre certaines conséquences qu'on peut pas maîtriser. Faut juste avoir peut-être plus de déjà des questions de loi sur l'éthique qu'il y a derrière, et puis pour essayer d'un peu appréhender entre guillemets les possibilités de les possibles conséquences non maîtrisables.
Oui, merci à tous pour vos avis. Donc c'est vrai qu'on se rend compte que les OGM, ça fait toujours débat, notamment par rapport à l'éthique. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions et ne sont pas toujours pour à cause de ça. Mais il y a aussi d'autres risques, parfois, qu'on n'est pas au courant. Il y a des risques sanitaires et environnementaux dus aux OGM. Parfois, il y a eu des problèmes de pollution des sols. Et c'est souvent nié dans les débats, on s'en rend pas compte, mais il y a tous ces problèmes-là aussi derrière. Il y a des problèmes de pollution génétique, donc... Il y a quand même des points négatifs aux OGM qu'il faut faire attention de bien réguler, de bien se rendre compte de toutes les conséquences que ça a.
Ouais, exactement. Et en plus de la pollution, des risques sanitaires et environnementaux, il y a aussi un risque qui n'est pas négligeable. On a vu énormément... De cas où on a, par exemple, des vaccins, on a créé des vaccins grâce à des OGM et qui ont créé des effets secondaires. Par exemple, des vaccins pour des bébés avec des effets secondaires très graves qui pouvaient presque tuer les nouveau-nés. Et donc ça, c'est un risque pas négligeable, même si on continue à faire des tests dessus en laboratoire. Ça, on maîtrise pas totalement la chose.
Oui, je voulais, Je voulais rajouter l'exemple, je viens de la Martinique, et il y a eu une grande crise sanitaire à cause du chlordécone. C'est un OGM qu'on mettait dans les plants de bananes pour qu'ils grandissent plus, pour qu'ils soient mieux. En fait, c'était pour améliorer le rendement de la plantation. Et ça a causé beaucoup, beaucoup de répercussions négatives à la population. Jusqu'à maintenant, les sols sont pollués. Et du coup, les dom-toms, nous sommes devenus des départements ayant un taux de cancer le plus élevé de toute la France. Du coup, comme tu as dit, il y a des répercussions à prendre en compte. Et malgré tout cela, il faut faire attention.
Ouais, voilà, c'est exactement ça. Merci pour ton exemple qui illustre exactement la chose. C'est que des médecins, ils le disent, ils persistent, c'est l'ingestion ou de produits contenant des OGM ou même issus des OGM. Ça crée et ça créera toujours une incertitude sur la présence d'une substance indésirable qui pourrait présenter des dangers pour soit nous-mêmes, soit l'animal à qui on l'ingère, quoi. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questionnements qui persistent vis-à-vis de ça. Donc l'évaluation des effets possibles, la dégradation des OGM au cours de la digestion, les risques d'allergie, les effets potentiels et l'évaluation de la sécurité alimentaire des produits génétiquement modifiés.
Moi, un truc que je trouve incroyable sur les OGM, enfin, c'est ce que je trouve depuis le début, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'OGM dans un débat, ou que ce soit à la télé, ou que ce soit dans les films, ou que ce soit partout, à chaque fois, on en voit vraiment quelque chose de très négatif. Et je me demande, pourquoi on continue de faire les OGM si c'est si négatif que ça? Enfin, je ne vois pas d'effet vraiment positif. Je n'ai jamais vu en fait, des gens me dire « Ah non, mais les OGM, c'est vraiment trop bien parce que ça, 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 ça. » Est-ce que vous, peut-être qu'ils sont renseignés sur la chose, vous pouvez un peu me... ou peut-être les autres personnes qui sont sur la table, vous pouvez un peu me dire en quoi les OGM servent vraiment pour la science et pour l'industrie, tout ça? Parce que moi, je suis un peu perdu sur la chose quand je vois tous les points négatifs qu'on dit.
C'est vrai que ça fait un peu peur, mais on s'en rend pas compte. Mais c'est quand même vraiment important dans le médical pour certains vaccins et certains médicaments. Et aussi dans la nutrition, on peut les utiliser pour nourrir plus de personnes, parce qu'on peut faire par exemple du riz avec plus de fer pour distribuer dans les pays défavorisés, pour que ça permet vraiment d'améliorer la nutrition de certaines personnes, notamment dans les pays défavorisés, comme j'ai dit. Et ça peut vraiment être très bénéfique, mais effectivement, il y a encore beaucoup de risques et d'inconnus.
Eh bien, écoutez, merci à Ahmed et Manon pour cette rubrique sur les OGM. Et puis merci à tout le monde d'avoir réagi par rapport à cette question-là. Et maintenant, on va passer à un sujet un peu lié. Et c'est Pauline et Étienne qui vont nous en parler un peu. Et puis on va essayer un peu de débattre là-dessus. Ça concerne les modifications génétiques, mais plus particulièrement, 1, 2, 3, plus particulièrement sur les êtres humains. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ?
Alors, merci beaucoup, Elora. Alors, effectivement, on va parler des modifications génétiques, nous aussi. Donc, c'est totalement lié avec la partie qui vient de se dérouler. D'ailleurs, on va revenir peut-être sur certaines choses, donner des précisions ou utiliser d'autres exemples. Nous, on s'est en fait concentré sur une nouvelle technologie qui est assez récente dans le domaine de la génétique. Donc, ça a été découvert par une chercheuse française et une chercheuse américaine très récemment, en 2012, je crois. Donc, c'est une technologie qui s'appelle CRISPR-Cas9. Et c'est un outil moléculaire, en fait, c'est un ciseau moléculaire qui permet de couper un peu où on veut une séquence d'ADN. Donc, on peut comme ça modifier un gène ou supprimer un gène, rajouter des nouveaux gènes. Donc, on peut faire assez facilement et à un coût assez faible et beaucoup moins cher que les anciennes technologies. On peut faire des modifications vraiment à une échelle beaucoup plus grande qu'avant. Donc cette technologie, elle ouvre des chances, des opportunités de faire plein de choses très positives, donc, notamment dans le domaine médical. Ça permettrait de soigner de nombreuses maladies, voire même les éradiquer si on peut intervenir dès le début. Mais il y a tous les problèmes éthiques associés, donc c'est important de se questionner sur ce sujet et peut-être d'en débattre avec la société. Enfin, Étienne, toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Merci d'avoir présenté tout ça. Alors, quand je me suis un peu renseigné sur le sujet, j'ai vu qu'il y avait plein de points négatifs et plein de points positifs. Il y a des points positifs où ça a très bien marché. Par exemple, j'ai vu Ça a été utilisé en agro-industrie, en fait, pour les champignons de Paris. C'est-à-dire qu'on a modifié génétiquement les champignons de Paris pour qu'ils pourrissent moins vite. Bon, d'un côté, moi, je trouve ça vraiment super bien parce que moi, personnellement, j'adore les champignons et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en achète, il faut que je les mange vite parce que c'est vrai que ça brunit vite dès qu'on les commence à les consommer. Et je me dis, faire ça, ça réduit vraiment du coup le gaspillage et d'un point de vue écologique, du coup, c'est super bien. Après, voilà, le problème, c'est que quand je reviens sur le sujet, je vois des trucs un peu qui font peur, qui font un peu, qui font un peu film de science-fiction où on rentre dans un truc un peu bizarre. Par exemple, j'ai vu un Américain, un scientifique appelé George Church, qui a dit que grâce du coup à cette modification génétique, on pourrait réussir à ressusciter un mammouth laineux. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, mais c'est quoi, c'est Jurassic Park maintenant, là où on est? Donc ça commençait vraiment à me faire peur et je voulais savoir un peu ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous penserez que c'est une bonne idée que grâce à cette modification génétique, on arrive à ressusciter des espèces qui ont totalement disparu?
Moi, en soi, ça pourrait être bien, mais ça peut ensuite dériver très rapidement et ça peut devenir très vite incontrôlable. Donc il faudrait vraiment que ce soit bien encadré. Ça pourrait... Parce que là, on fait quand même face à un changement climatique qui risque aussi de détruire pas mal d'espèces. Donc, si on avait la possibilité de les sauver, pourquoi pas? Mais c'est vraiment à faire attention et à surveiller.
Moi, je pense que d'abord, avant de vouloir, entre guillemets, ressusciter, on va dire, des anciennes espèces, il faut se demander déjà pourquoi le faire. Dans quel but, quelles sont les possibilités de conséquences qui peuvent arriver avec ça. Juste d'abord, et puis en discuter pas qu'avec les scientifiques, je pense qu'on a besoin de l'intervention de, que ce soit, je sais pas moi, les spécialistes en éthique sur les animaux ou même les politiques. Bon, peut-être, je pense qu'il y a besoin d'une grosse discussion de la part de plein de spécialistes. Sur la question de pourquoi faire ça et comment déjà. Et puis, histoire que ça soit, en tout cas, si on en vient à le faire, contrôlé.
Je pense que la réponse la plus évidente de pourquoi ressusciter, entre guillemets, un animal qui est mort, tout simplement pour la découverte, l'humain aime découvrir, par exemple, la conquête de l'espace, lui-même découvrir ce qu'il ne connaît pas, en fait, et enrichir ses connaissances. Du coup, tout simplement ressusciter cet animal en question, on pourrait découvrir peut-être comment était la Terre avant, ce qu'il pourrait potentiellement manger, ou même peut-être résoudre, moi j'extrapole un peu, j'idéalise, peut-être résoudre certains problèmes de maintenant, en se disant, si on faisait ceci, cela avant, du coup, que cet animal disparaisse, peut-être qu'on pourrait essayer de le refaire et du coup, peut-être avoir un impact écologique, moi j'extrapole beaucoup, un impact écologique qui va avec du coup le sens du développement durable et du coup faire de nouvelles découvertes. Mais l'humain a soif de découvertes, donc pourquoi pas ressusciter cet animal?
Moi je suis d'accord avec toi, mais ce que je voulais dire c'est que ça demande, n'importe quelle innovation, n'importe quelle recherche là-dessus demande un coût, demande du temps, et je pense que il faut aussi avant de vouloir tout découvrir et tout savoir, il faut aussi prioriser entre guillemets dans quoi est-ce qu'on veut s'embarquer, dans quelles recherches on veut, quels investissements on veut faire avant de...
En fait, moi je pense surtout que si on veut faire ça, si on veut ressusciter par exemple le mammouth, c'est juste d'un point de vue, mais vous vous rendez pas compte, scientifique qui arriverait à faire ça, ça serait une des découvertes les plus incroyables du 21e siècle. Enfin, pour moi, ressusciter une espèce qui est morte, genre jamais on a vu ça et... Pour moi, j'y crois pas. Enfin, encore aujourd'hui, j'y crois pas qu'on peut faire ça. Genre, ça me paraît vraiment trop ouf. Alors, si ça serait fait, moi, je serais comme un enfant. Enfin, revoir un mammouth comme ça et tout refait entièrement de A à Z dans le laboratoire, moi, je trouvais ça vraiment incroyable. Après, c'est vrai, en fait, il faut tous se poser la question. En fait, je pense que c'est ça le problème. C'est qu'encore, il n'y aurait pas eu trop de problèmes sur Terre et tout par rapport aux espèces et tout, on va dire, on prendrait l'hypothèse que les espèces sont pas en voie de disparition et tout, et qu'on peut s'attarder sur ça, pourquoi pas. Parce que je me dis, il y a tellement de problèmes avec la disparition des espèces, tout ça, que pourquoi on devrait essayer d'en recréer des qui sont morts? Enfin, je trouve ça vraiment un peu trop au bout d'un moment, et j'ai envie de dire, stop quoi, on essaie de sauver ce qu'on a, et après peut-être on pourrait essayer d'en ressusciter qui sont morts quoi.
Moi, je pense justement que de pouvoir ressusciter des espèces qui ont déjà disparu, ça serait une découverte exceptionnelle, parce que tant qu'on ne ressuscite pas n'importe comment, n'importe où, avec n'importe qui des espèces, ça serait génial, parce que justement, on pourrait... on sait qu'il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent actuellement, qui sont très importants pour la planète, pour l'environnement, etc. Et si on arrive à faire revivre ces espèces qui sont en train de disparaître, ça serait incroyable. Je prends l'exemple des abeilles. On sait qu'on ne peut pas vivre sans abeilles. Et il y en a de moins en moins. Dans le futur, elles sont amenées à disparaître. Et si dans le futur, quand elles disparaîtront, on aura la technologie pour pouvoir les faire revivre, ça ferait que... Ça serait juste incroyable.
Comme tu disais, Étienne, pour moi, faire revivre une espèce, c'est quand même quelque chose d'un peu fascinant. Enfin, ce serait... Oui, quelque chose d'incroyable, mais ça demande quand même beaucoup de recherches. Enfin, si on y arrive un jour, ça demandera des recherches sans pareil. Et pour moi, là, actuellement, il faut concentrer nos recherches et notre énergie. On sait que écologiquement, ça ne va pas, etc. Donc, il faut plutôt concentrer notre énergie sur comment préserver toutes ces espèces plutôt que comment les ressusciter une fois qu'elles seront mortes. Enfin, pour moi, il faut agir maintenant sur ce qui est encore là plutôt que... se poser des questions sur comment faire revivre une fois que tout sera fini.
Oui, je suis complètement d'accord avec toi, parce que sinon on va entrer dans un cercle vicieux. On essaye de faire réapparaître une espèce qui a disparu, entre guillemets, à cause du réchauffement climatique, de l'environnement néfaste qui a été pour lui. Et au final, on va recréer, et il va quand même grandir, évoluer dans cet espace qui l'a fait disparaître. Du coup, on va rentrer dans un cercle vraiment vicieux. Du coup, je suis complètement d'accord avec toi dans la mesure qu'il faudrait déjà régler les problèmes, de se demander pourquoi cette espèce a disparu avant de se dire « allons la recréer, il faut qu'elle revienne sur Terre ».
Bah, merci beaucoup pour tous vos avis. Donc là, on est resté quand même dans le domaine des animaux, etc. Mais en fait, tout ça, moi, ça me fait penser aux futurs dystopiques qu'on peut voir dans des films ou des choses comme ça, un peu science-fiction. Et en fait, on se dit que c'est pas seulement les animaux ou les aliments dans l'agroalimentaire, l'humain aussi est concerné par cette technologie, puisqu'avec CRISPR-Cas9, on peut aussi modifier les êtres humains. Et qu'il y a même des êtres humains qui ont déjà fait des tests sur eux. Donc j'ai vu des études. Comme en fait, cette technologie est très facile d'accès, on peut acheter à des laboratoires, notamment aux États-Unis, des petits kits pour créer ce ciseau moléculaire chez nous. Et ensuite, on peut l'utiliser. Et ce n'est pas trop contrôlé dans certains pays. Il y a aussi un problème législatif, en fait. Il n'y a pas de loi où tout le monde est d'accord sur l'utilisation de ces procédés. Et donc, si on peut l'utiliser sur nous, est-ce qu'on n'aurait pas des surhommes qui pourraient être créés si on améliore nos performances, si on se met des gènes plus performants, on augmente sa masse musculaire, on pourrait faire tout un tas de choses. Oui, on peut soigner des maladies, mais on peut faire plein d'autres choses sur l'être humain. Et oui, moi, ça me fait clairement penser à des futurs dystopiques qu'on voit dans les films.
Moi, je trouve qu'en général, l'homme, il veut toujours un peu avoir plus, on veut toujours vivre plus longtemps. Si on regarde maintenant notre population, elle vit de plus en plus. On essaye toujours de soigner tout, ou même augmenter nos performances avec, des énergisants dans le sport, par exemple. Et je trouve que ça serait quand même incroyable si on pouvait, si j'ai la possibilité de pouvoir courir un marathon sans faire aucun effort ou... Enfin, forcément, ça attire. Et après, je pense que tout autour de ça, il y aura toujours des énormes problèmes de... par exemple, si on devient, entre guillemets, des surhommes, ça peut être utilisé comme une arme. S'il y a des guerres, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que l'utiliser... Enfin, ça peut être aussi complètement pas du tout maîtrisable, parce que si c'est, par exemple, vendu comme ça, ce que tu disais, l'outil de ciseaux moléculaires, si c'est vendu comme ça et ça tombe dans des mauvaises mains, entre guillemets, avec des mauvaises intentions, je pense que ça peut vite devenir dangereux et problématique et incontrôlable.
Et en plus de ça, pour moi, il y aurait tous les problèmes liés aux inégalités sociales. Peut-être que ce serait beaucoup plus facile d'accès parce que moins cher que ce qui existe aujourd'hui. Mais il y aurait quand même des gens qui auraient plus facilement accès que d'autres. Et ces personnes-là, si elles sont plus riches, par exemple, elles pourraient plus s'améliorer, plus modifier leur génome, être du coup une surpopulation. Et on aurait une inégalité terrible entre les personnes génétiquement modifiées parce qu'elles sont plus riches ou juste parce qu'elles le veulent, et les personnes qui s'y opposent ou qui n'ont pas les moyens financiers. Et enfin, ça fait clairement penser, par exemple, au Meilleur des mondes, enfin, un roman, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais on a comme ça une séparation dans la population, ou encore au film Bienvenue à Gattaca, où on a la population, certaines personnes qui ne sont pas modifiées ne peuvent pas avoir, enfin, faire certains métiers parce qu'ils sont considérés comme inférieurs ou des choses comme ça. Et donc, il faut vraiment trouver la limite entre ce qui est éthiquement correct et ce qui ne l'est pas.
Ben, pour moi, dans la mesure qu'on l'utilise, par exemple, pour éviter, par exemple, qu'un enfant, un bébé qui naisse avec un syndrome, naisse avec le syndrome de la trisomie 21, pour moi, ce serait utile de l'utiliser dans ce cas-là, parce qu'il pourra sauver sa vie, entre guillemets, éviter des complications à la mère durant l'accouchement, mais aussi éviter, comment dire, une autre évolution, il pourra bénéficier d'une autre évolution, une évolution que les parents auraient peut-être voulu. Du coup, je pense que ce choix de modification devra rester, par exemple, à la personne concernée, du coup aux parents de l'enfant, ou même à la personne concernée, parce que je me dis que la chirurgie esthétique, si on prend par exemple l'exemple de la chirurgie esthétique, certaines personnes modifient leur corps pour suivre la mode ou même les différents concepts de beauté. Et ça existe du coup déjà. Donc si cette personne veut vraiment modifier ses gènes pour faire ceci, pourquoi pas le laisser puisque c'est son corps et sa vie. Donc je pense que ça devrait être encadré, mais si elle, c'est son choix, sa volonté.
Ouais, voilà, je suis d'accord, largement d'accord avec Etia. Après, voilà, c'est son choix. Moi, on me dit, on peut te faire un truc pour modifier ton corps, pour que tu te sentes mieux et tout. Mais il y a des effets secondaires qu'on ne connaît pas encore et qu'on me laisse le choix. J'ai signé un contrat. Bah après, c'est de ma faute si j'en subis des conséquences néfastes. Hein. Je ne sais pas comment. Ça, c'est sûr.
Oui, mais un des problèmes auxquels tu ne penses pas, c'est que oui, ça va avoir des conséquences sur toi et tu seras le seul responsable. Mais si, par exemple, tu décides d'avoir des enfants, etc., peut-être qu'il y a des choses qui vont se transmettre chez tes enfants et eux, ils n'auront rien demandé. Et qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, tu vois?
Moi, je trouve juste que c'est notre choix, entre guillemets. Enfin, je veux dire, par exemple, tu as des personnes qui sont infectées du VIH, qui ont des enfants. Ça peut être transmis. Enfin, y a plein de choses comme ça qui ne sont pas contrôlables. Et en soi, la question d'avoir des enfants, je ne pense pas que c'est... Moi, je pense juste qu'il ne faut pas normaliser les choses. C'est comme la chirurgie esthétique. Si ça devient normal pour tout le monde d'avoir ce type de corps ou ce type de physique, forcément, après, ça va créer des complexes. Moi, je pense juste qu'il faut laisser le choix à tout le monde de faire ce qu'il veut de son corps, etc. Mais il ne faut pas forcément mettre en avant une technologie ou une innovation qui a potentiellement des grosses conséquences. Parce que la chirurgie esthétique, par exemple... Enfin, c'est quand même des lourdes... Déjà, ça a un énorme coût. Et en plus de ça, c'est des conséquences sur le corps qui sont quand même énormes, je trouve.
Oui, pour moi, de toute façon, la modification génétique, c'est quand même une avancée incroyable. Parce que, comme on l'a dit, on peut guérir des maladies, etc. Où les personnes, elles peuvent se sentir mieux psychologiquement si elles peuvent enlever certains complexes ou des choses comme ça. Mais le problème, c'est que... Comment savoir qu'est-ce qu'on pourrait autoriser et qu'est-ce qu'on n'autoriserait pas si on crée des lois où les gens peuvent utiliser ces modifications génétiques? Il y aurait forcément des dérives, on ne pourrait pas tout contrôler, il y aurait des laboratoires qui réussiraient à esquiver toutes ces normes et il y aurait forcément des choses qu'on ne pourrait pas contrôler. D'où l'importance aussi d'en parler avec la société et de demander l'avis de la société civile parce qu'elle est concernée dans l'histoire plus que jamais.
Ok, ouais, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Comme l'a dit un chercheur, en fait, Alain Fischer, je crois que tu en as déjà parlé ou pas du tout, non, pas encore? Ok, Alain Fischer, en fait, il dit que le problème d'une modification abusive, ça va directement toucher au patrimoine génétique de l'humanité et qu'on pourra avoir des conséquences plus tard de génération en génération. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut faire vraiment très 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 attention à ça, parce qu'on sait ce qui nous réserve le futur, et ça pourrait être très 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 dramatique.
Et je vais juste utiliser un petit exemple pour finir cette rubrique, pour montrer quand même qu'on n'a pas de législation qui met tout le monde d'accord, et qu'entre les différents pays, pour l'instant, on n'arrive pas à s'accorder, c'est qu'en Chine, il y a eu récemment un scientifique qui a fait naître deux enfants, enfin qui a modifié deux embryons et qui a fait naître des enfants pour qu'ils ne puissent jamais développer le VIH, en fait. Il les a modifiés avec cette technique. Et donc, ça pourrait être considéré comme une grande avancée scientifique de ne jamais pouvoir avoir le sida. Mais au final, ça a été totalement rejeté par la communauté scientifique. Et ça a été fait en Chine, mais ça aurait été refusé en Europe ou aux États-Unis. On n'aurait jamais pu faire ça. Et donc, ça prouve bien que, pour l'instant, il n'y a aucun accord entre les pays. Et c'est vraiment controversé.
Bah écoutez, merci beaucoup Pauline et Étienne pour cette rubrique et puis merci tout le monde aussi d'avoir débattu là-dessus. Moi, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale et qui va commencer tout de suite.
Et ben voilà, bah c'était cette petite pause musicale. Je pense que vous avez tous reconnu le générique de notre enfance. Il était une fois la vie qui parlait beaucoup de la santé. Et ben maintenant, on va continuer encore à parler de tout ça, en fait, de tout ce qui est par rapport à la médecine. Et nous allons laisser du coup la parole à Kezia et à Edgar pour leur rubrique.
Alors moi, je vais vous parler de l'utilisation de la médecine et des nouvelles technologies dans le sport. On sait que voilà, la science est de plus en plus utilisée depuis quelques décennies, surtout quelques années dans le sport. On peut voir des athlètes pour améliorer leur performance qui font de la chirurgie. Par exemple, le célèbre golfeur Tiger Woods qui a fait une chirurgie des yeux pour avoir 10/10 à chaque œil, ainsi pouvoir mieux analyser au golf et être meilleur. On a aussi des athlètes qui font de la chirurgie pour l'oreille, qui est très important dans les sports collectifs, ou même l'oreille interne, qui est très utile pour l'équilibre, donc qui est très important dans beaucoup de sports, comme la gymnastique. Et donc, ces opérations posent beaucoup de problèmes, parce qu'en fait, elles créent des inégalités dans le sport. Parce que le but, c'est de se limiter, de repousser ses limites naturelles, je veux dire, dans le sport à haut niveau. Et en fait, si des athlètes font des chirurgies qui coûtent très cher. La chirurgie des yeux ou des oreilles, ça coûte très cher et pas tous les athlètes peuvent se le permettre. Ça va faire qu'il y aura beaucoup d'inégalités dans le sport et ça pose énormément de problèmes.
Oui, mais si par exemple tu nais avec une vue de 1/10 et que tu veux faire ce sport et que du coup tu nais avec entre guillemets une inégalité par rapport à d'autres personnes qui ont 8/10 à la vue. Du coup, faire cette chirurgie pour pouvoir essayer d'égaler, entre guillemets, en termes de vision, les autres sportifs, est-ce que vraiment tricher, est-ce que c'est une inégalité, tu vois? Est-ce que c'est pas plutôt essayer d'avoir le même niveau que ces personnes en question?
Bah, si on arrivait à limiter ça et qu'on se mette tous pour le même niveau aux deux yeux, bah oui, on serait tous égaux. Mais comme on disait tout à l'heure, il y aurait forcément des gens qui chercheraient à être au-dessus. Et si on peut se mettre au même niveau que les autres, il y aurait forcément des gens qui voudront être au-dessus des autres et qui feront en sorte d'avoir une vision supérieure à la moyenne. Donc on aurait toujours ce problème d'inégalité au final.
De toute façon, l'inégalité, ça se voit partout, en fait. C'est pas juste dans la chirurgie et tout. Ça peut même se voir dans les opérations, tout ça. Moi, je sais que, par exemple, je vais prendre un exemple sur moi, mais je pense que c'est à plusieurs personnes aussi. Quand je me suis fait une blessure, je me suis fait les ligaments croisés. Et pour que je puisse avoir une opération et tout ça, que je puisse me prendre en charge et tout, avec le temps d'attente et tout, ça m'a pris plus d'un an. Avant que j'ai mon opération, puisque voilà, il fallait que je fasse l'IRM, tout ça, j'avais les résultats dans longtemps, il y a eu plein de problèmes. Alors je sais qu'un sportif, directement quand il fait ce genre de blessure, directement il va tout de suite dans un hôpital et il fait de l'opération dans la semaine après. Donc, cette inégalité, elle se voit dans n'importe autre type en fait chez les sportifs. Voilà, il y a une histoire que le sportif gagne de l'argent par rapport à ce qu'il fait, et donc du coup, bah, d'un côté, il est prioritaire sur les opérations par rapport aux autres qui eux gagnent pas de l'argent. par rapport à ce qu'ils font d'un point de vue sportif. Donc voilà, après, moi, pour moi, cette inégalité, bah, j'ai envie de dire, bah, si vous avez vraiment envie d'avoir 10 sur 10 à vos yeux, bah, soyez riche et faites du sport. Hein. C'est comme ça, qu'est-ce que vous pouvez. Hein.
Après, le problème de ces inégalités, c'est que... ça va créer beaucoup de problèmes parce que ça sera plus le meilleur sportif, celui qui surpasse le mieux ses limites naturelles qui va gagner. Ce sera celui un peu qui aura fait les meilleures opérations, qui aura le plus d'argent. En fait, avec l'argent, n'importe quelle personne pourra devenir meilleur qu'un sportif professionnel qui s'entraîne tous les jours depuis son enfance. Voilà, y a pas que les problèmes de la chirurgie, il y a aussi le problème. De plus en plus d'outils technologiques qui sont utilisés dans le sport. Par exemple, il y avait les combinaisons en natation, en fait, des combinaisons qui mettaient sur tout le corps à la fin des années 2000, qui faisaient qu'ils allaient plus vite dans l'eau. Je ne sais plus pourquoi, je ne suis pas un expert en combinaisons de natation. Mais ça faisait qu'à cette époque, c'était aux années 2008-2009, tous les records mondiaux de natation ont été absolument explosés grâce à ces combinaisons. Et plus tard, on a considéré ça comme du dopage technique et tous ces records ont été effacés. Donc, on voit bien que ça a créé des problèmes. C'est un peu comme du dopage technique. Que ce soit ces combinaisons ou cette chirurgie, ça devient du dopage technique. Il y a aussi les prothèses. Les prothèses, c'est génial parce que ça permet aux personnes handicapées de pouvoir faire du sport à haut niveau comme des personnes valides. Mais on va atteindre un point de perfection de ces prothèses que des personnes du coup invalides qui mettront ces prothèses et les utiliseront pourront être meilleures, même bien meilleures que des sportifs professionnels valides. On a l'exemple de Oscar Pistorius qui a du coup deux prothèses aux jambes, deux prothèses en carbone, qui a aux Jeux Olympiques, il n'a pas fait les Jeux Paralympiques comme chaque personne handicapée, il avait un tel niveau qu'il a pu accéder aux Jeux Olympiques et il a même accédé à la demi-finale du 400 mètres d'athlétisme. Et en fait, parce que grâce à ses prothèses, au démarrage du 400 mètres, il allait moins vite. Mais après, en fait, après le démarrage, quand il prenait de la vitesse, il allait plus vite que des personnes valides. Donc voilà, ça pose problème. Parce que, en plus, ça pose encore des inégalités, parce que ces prothèses, elles coûtent très cher. On sait que les prothèses d'Oscar Pistorius, elles coûtent 30 000 euros chacune. Donc voilà. Tous ces outils technologiques vont poser énormément de problèmes. En fait, faudra s'arrêter à la limite entre. Faudrait qu'on connaisse la limite entre réparation et amélioration. C'est-à-dire réparation entre guillemets des personnes handicapées qui peuvent faire du sport à haut niveau comme les personnes non handicapées. Et amélioration, c'est-à-dire qu'avec les outils technologiques, avec la chirurgie, les outils technologiques, que ce soit les combinaisons de la natation ou autres, bah, ils seront meilleurs que des personnes valides. C'est-à-dire que n'importe quelle personne avec de l'argent. Avec de l'argent, il fait la chirurgie. Par exemple, il se met un bras bionique puissant et il pourrait gagner, par exemple, toutes les compétitions de lancer de javelot, de lancer de marteau, toutes les compétitions où il y a besoin de force. Donc voilà, ça pose pas mal de problèmes.
Oui, en effet, certaines prothèses sont tellement augmentées et vont jusqu'à dépasser certaines aptitudes humaines, qu'on pourrait se poser la question, en effet, si on peut les utiliser dans certains cas. Mais je pense que ces prothèses, du coup, doivent rester dans le handisport, par exemple dans les Jeux paralympiques, et non dépasser les Jeux, on va dire, durant les JO. Il y a une phrase qui m'a interpellée de Mathieu Balaguer. C'est le responsable technique d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de prothèses. Il explique que même s'il y a eu quelques polémiques, on ne sait pas vraiment si celle-ci, en parlant des prothèses, favorise leur porteur quand ils concourent contre des valides. Quand vous prenez l'exemple d'Oscar Piotouris, vous voyez bien qu'au début de sa course, il y a du mal à se lancer, puis dans sa foulée, devient de plus en plus rapide, comme tu l'as dit. Certes, mais a-t-il vraiment un avantage? On ne sait pas. Faudrait mesurer ceci autrement, puisque dans la mesure qu'il part déjà avec un handicap, sous peut-être qu'il a des prothèses vraiment élaborées qui dépassent l'aptitude de certains humains, il a un avantage considérable. Mais je pense vraiment qu'il faudrait laisser les prothèses dans le handisport et non l'extrapoler aux autres sports pour ne pas avoir des dérives comme celle-ci.
Ouais, je suis carrément d'accord. Pour moi, le handisport devrait rester dans le handisport et les sports olympiques devraient rester dans les sports olympiques. Après, je me rappelle, moi, quand j'étais petit, j'avais suivi ce coureur parce que moi, j'étais vraiment impressionné de voir un coureur handicapé dans les Jeux Olympiques. Je trouve ça vraiment trop classe, quoi, de me dire que le gars, il est né avec une maladie et finalement, il arrive à la battre pour arriver jusqu'en demi-finale des Jeux Olympiques. Donc, c'était très impressionnant. Mais je ne savais pas que grâce à ça, il avait quelques avantages. Et d'un côté, j'ai envie de dire, les Jeux Olympiques doivent rester entre sportifs qui n'ont pas de problème d'handicap et les sports paralympiques devraient rester pour ceux qui ont, problèmes d'handicap, quoi. Enfin, après, c'est mon avis. Après, à part lui, de toute façon, il n'y a pas eu d'autres exemples, il me semble. Donc, à partir de là, j'ai personne qui a envie de rajouter, non?
Voilà, moi, je suis totalement d'accord parce que on sait que la science va encore s'améliorer avec les années. Donc, dans quelques décennies, les prothèses seront telles que les coureurs sans prothèses avec prothèses, il y aura une telle différence. Avec prothèses, ils sont tellement avantagés qu'ils ne seront plus dans la même catégorie. Donc, il ne faudrait pas mélanger handisport et sport normal. Après, il y a aussi les spectateurs et les fans de sport qui doivent se poser la question, en fait, est-ce qu'on veut regarder des athlètes repousser leurs limites naturelles, donc le sport, ou est-ce qu'on préfère assister à une bataille un peu d'ingénieurs et de porte-monnaie avec des athlètes presque déshumanisés dans le futur, tellement ils auront fait de chirurgie ou tellement ils auront de prothèses un peu partout sur le corps.
En soi, c'est vrai que vu comme ça, pourquoi ne pas opposer des personnes qui seraient plutôt un combat technologique avec des personnes toutes les deux améliorées et pour voir laquelle a les meilleurs outils pour gagner la compétition. Mais du coup, il faudrait avoir vraiment deux catégories différentes et ne pas mélanger les athlètes qui se sont vraiment entraînés, ont des réelles performances physiques et ces compétitions plus technologiques. Pour moi, ça peut être deux choses intéressantes et les deux peuvent être bien, mais juste ne pas les mettre ensemble et savoir faire une séparation entre les deux.
Nous parlons depuis tout à l'heure des sportifs, mais aussi des prothèses pour les personnes dans leur vie de tous les jours, dans leur quotidien. En effet, différentes prothèses, telles que des prothèses pour les bras, auditifs, ou même les jambes, permettent d'améliorer la vie de beaucoup de personnes handicapées ou même amputées. Et on pourrait se demander jusqu'où on peut d'abord remarquer qu'il y a des inégalités qui se creusent encore une fois entre les différentes prothèses. Donc pour avoir une prothèse plus confortable et plus ergonomique, elle devient de plus en plus chère. Du coup, il faudrait se demander, je sais pas, j'aimerais d'abord avoir votre avis, si on devait rendre les prothèses médicales, du coup, qui aident les personnes handicapées amputées durant leur vie gratuite ou avoir le même prix pour chaque prothèse?
Pour moi, je dirais comme ça, je dirais gratuit. Après, je pense que si c'est pas gratuit, c'est que ça pose un problème et que je me connais pas assez pour savoir quel problème ça cause. Et tout le monde, je pense, dirait gratuit parce que c'est pas leur faute qu'ils sont handicapés. Pour moi, chaque personne devrait avoir accès à la santé comme il veut. Sauf que je pense que si c'est pas gratuit, c'est qu'il y a un autre problème que je connais pas, et donc j'avoue que je peux pas trop me renseigner sur le sujet, quoi.
Après, je pense que si c'est pas gratuit, c'est parce que bah, déjà c'est très cher à produire et très complexe à fabriquer et à y avoir réfléchi. Mais aussi parce qu'il doit avoir sûrement pour une même prothèse différents modèles plus ou moins avancés, un peu comme les téléphones où on choisit pas, on peut choisir le modèle le plus pratique, simple, ou alors on veut un truc très sophistiqué. Et donc là, bah, c'est à chacun de choisir ce qu'il veut vraiment. Mais le choix va faire aussi l'argent qu'il doit dépenser. Donc, après, il faudrait peut-être qu'on rembourse, par exemple, le modèle le plus basique. Là, ce serait une solution, si c'est possible. Mais bon, ça reste quand même cher. Donc, je ne sais pas s'ils sont capables de faire ça, mais ça serait peut-être la solution.
Oui. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, je pense effectivement que ce n'est pas faisable. Sinon, ce serait déjà fait, parce que c'est vraiment un investissement très coûteux. Mais oui, il faudrait... rembourser à tout le monde, on va dire, l'option sans amélioration, enfin la plus basique possible, et en fonction des performances qu'on veut faire, de l'utilisation qu'on veut en faire, chacun rajouterait les suppléments financiers qui correspondent, et ça pourrait être une solution envisageable.
Oui, mais malheureusement, les prothèses qui sont... Il existe des prothèses remboursées par la Sécurité sociale, mais malheureusement, beaucoup d'utilisateurs de ces prothèses, du coup, se plaignent de confort, d'une ergonomie non adaptée, d'une prothèse trop lourde à porter durant toute une journée. Et malheureusement, certes, ils ont une prothèse, mais qui ne sont peut-être pas adaptées à leurs besoins. Du coup, il faudrait, je pense, revoir ce système de prothèses et regarder le besoin de chacun. Je pense qu'il y aura un coût énorme à prendre en compte, ça c'est sûr et certain, dans la mesure qu'il faudrait accompagner et regarder les besoins de chacun, de chaque être humain en fonction de sa morphologie. Mais aussi, je pense qu'il y aura, ce serait mieux pour ces personnes handicapées, amputées dans la vie de tous les jours. Mais je voudrais aussi ajouter qu'il existe des personnes qui utilisent des prothèses dans leur vie de tous les jours, des personnes non handicapées. Personnellement, quand j'entends ça, je pense toujours à un Ironman, quelqu'un qui veut améliorer ses performances, par exemple sportif, ou même pour atterrir d'un point A à un point Z facilement. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'on peut parler toujours de prothèse, puisqu'une prothèse, je rappelle quand même une petite définition, c'est un dispositif, une pièce implantée dans l'organisme qui a pour but de remplacer ou de reproduire une fonction compromise. Mais à ce niveau-là, cette personne qui rajoute une prothèse à leur corps, est-ce que vraiment ça remplace ou reproduit une fonction déjà existante ?
Ok, bah merci beaucoup à vous tous. Je pense qu'on va pouvoir conclure et tout sur ce qu'on a fait. À part si quelqu'un a envie de rajouter quelque chose, non ? Si ?
Je ne sais pas si vous avez entendu parler des neuroprothèses. Des neuroprothèses, du coup, ça aiderait des personnes paraplégiques à être complètement autonomes dans leur maison. Par exemple, parlons de la neuroprothèse d'Elon Musk qui s'appelle Neuralink. C'est une puce implantée au niveau du cerveau qui pourrait complètement améliorer toute notre vie. Non seulement elle pourrait détecter certains problèmes problèmes mentaux, mais aussi au niveau de notre corps, du coup, détecter de nouvelles maladies. On pourrait contrôler par la pensée Internet. Il y a beaucoup, beaucoup de fonctions que cette puce, cette neuroprothèse pourrait apporter à notre quotidien. J'aimerais savoir, pour le mot de la fin, si vous auriez été capable de mettre cette puce à l'intérieur du coup, de votre cerveau.
Moi, clairement, oui. Si c'est pour améliorer ma vie, oui, je fais confiance à la science. Donc, personnellement, ça serait un grand oui. Et vous ?
Moi, je pense que ça me ferait quand même peur. Parce que je suppose que ça passe par une opération du cerveau. Enfin, je ne sais pas comment ça marche, mais bon, ça doit faire un peu peur quand même.
Le fonctionnement, c'est juste une aiguille qu'on implante au niveau de ta tête. On n'ouvre pas il n'y a pas de chirurgie. C'est juste comme un vaccin.
Franchement, moi, si ça me permet de m'aider dans ma maladie, pour guérir de ma maladie, ou si ça me permet, enfin, si ça m'aide au quotidien, voilà, je fais confiance à la science, je fais encore plus confiance à Elon Musk. Alors, moi, je dirais oui, tout de suite, sans hésiter.
Ok, bah merci. Merci beaucoup. Bah, je pense qu'on peut partir sur un petit takeaway. Voilà, pour avant de finir, peut-être qu'une personne pourrait dire, on fait un par un, ce qu'on a retenu le plus sur cette séance, qui nous a plus intéressé. Moi, c'était surtout, je pense, la partie sur les animaux génétiquement modifiés. Je veux dire, je trouve que c'est un débat qui est très controversé. Et moi, personnellement, bah, je suis intéressant de voir que c'est une personne qui pose des questions d'éthique par rapport à ça, alors que c'est vrai que moi, en vrai, bah, je suis pour comment la défense des animaux, mais d'un point de vue éthique, je trouvais pas ça si dangereux et j'ai appris des choses, donc je suis très content de cette partie-là.
Une chose qu'il faudrait retenir, je pense, c'est dans tout ce qui concerne les modifications génétiques, que ce soit sur les êtres humains, sur les animaux, sur les aliments et j'en passe, c'est que ça apporte forcément des choses positives, mais c'est toujours controversé. Donc, il faudrait vraiment réussir à trouver la limite et la frontière entre ce qui est éthiquement correct et ce qui ne l'est pas. Et pour ça, pas seulement avoir l'avis des scientifiques, mais aussi demander l'avis de la population civile pour que tout le monde puisse donner son mot sur le sujet.
Oui, moi, ce que j'ai remarqué, c'était aussi que on a beau croire que l'homme va vouloir toujours aller plus loin, mais on se rend compte quand même avec cette discussion que tout le monde se pose des questions, qu'on se demande vraiment si c'est vraiment nécessaire. Et c'est quand même important de voir que on se pose tous des questions et on se laisse pas juste guider par ce qu'on peut faire. Donc c'était très intéressant.
Et ce qui m'a le plus marqué, c'est les inégalités qui vont se creuser à cause de ces innovations, de ces nouvelles technologies pour améliorer notre quotidien de tous. Mais aussi, une seconde chose qui m'a marquée, c'est que ce serait assez bête que la France interdise, par exemple, la modification génétique sur les bébés. Mais par exemple, au Japon, par exemple, si tu vas accoucher au Japon, tu peux le faire. Du coup, ça aurait été bien d'avoir une loi éthique sur le sujet qui est valable dans n'importe quel pays du monde.
Eh bien, merci à tous. Et du coup, c'était la fin de notre petite radio. J'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve du coup pour une prochaine. Salut tout le monde.
Au revoir.